On amène un passouk dans, comme toujours dans le Midrash, un passouk de Michelet qui dit Ateret Tiferet Seva Vederech Tzedaka Timatse. Alors, Ateret, c'est une couronne, Tiferet de splendeur. Seva, pour l'instant, on va traduire comme si c'était Zaken. En fait, la Zikna, la Seva, c'est quelque chose qu'on va justement distinguer dans ce chapitre. Mais ça veut dire aussi la vieillesse. Et quand on le distinguera, on va traduire Zikna par vieillesse et Seva par avancée en âge. Bon. Alors, au départ, c'est deux notions, deux mots qu'on peut prendre l'un pour l'autre. Et ensuite, on les distinguera. Alors, ce passouk de Michelet, il dit donc que la vieillesse est une couronne de splendeur et elle se trouve, cette couronne de splendeur, sur le chemin de la tzedaka. Alors, je crois que ça, je l'avais dit, peut-être, ça m'ennuie toujours, ils traduisent toujours tzedaka par charité. Je vois que j'ai une traduction en anglais, ils traduisent aussi par charity. Et ça m'embête parce que ça n'a rien à voir avec le cœur, en fait. Enfin, il faut bien du cœur pour ça, mais la tzedaka, ce n'est pas... Quand on dit charité, on perd toute la notion de tzedek, qui est un problème de justice. Mais bon, mon fils Yitzhak, il dit qu'on utilise ce mot charité parce que c'est comme ça qu'on parle quand on veut dire que quelqu'un donne de l'argent, donne quelque chose. C'est comme ça que les gens disent. Je pense que bon, c'est l'influence chrétienne, évidemment. Et c'est pour ça que ça m'ennuie d'ailleurs. Donc, je ne traduirai pas tzedaka. Je vois que Smilevitch, dans son commentaire, dans sa traduction du Michelet, lui, il a traduit par équité. Après certains, c'est pas non plus très génial. En tout cas, voilà, il y a un chemin, il y a une façon de se conduire dans la vie qui mène à la vieillesse. Donc, évidemment, la vieillesse, ici, ça ne peut pas être synonyme du grand âge. Parce que, bon, le grand âge, il arrive parce que, voilà, on est devenu vieux, c'est tout, quoi. Mais en fait, la vieillesse ici, ça a l'air d'être quelque chose qu'on mérite, quelque chose qu'on construit. D'accord? C'est comme ça, on la trouve sur un chemin. Il faut s'engager sur un certain chemin pour accéder à cette seva ici, puisque c'est seva qu'on parle. Voilà. Alors là, le Midrash, il ramène un maasé. Amen. Un fait. Rabbi Meir, Azal le Mamla. Rabbi Meir est allé à un endroit qui s'appelle Mamla. Ra'otan Kulan, Shchore Roche. Il a vu que les gens avaient tous des cheveux noirs, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de cheveux blancs. Amar Lahem, il leur a dit. Il n'y avait pas de cheveux blancs, même si effectivement il pouvait aussi avoir des visages qui semblaient être des visages de personnes âgées. Mais même ces personnes âgées-là, elles quelque part, elles avaient aussi les cheveux noirs encore. Il n'y avait pas de cheveux blancs. Alors, il leur a dit, Tomar, mi mishpachat bet Eli atem. Est-ce que ça veut dire que vous êtes de la famille, dans la descendance de Eli, Eli avec un Aïn. C'est pas Elia ou un Avi, n'est-ce pas? Eli, c'est un mot que tout le monde, qui est un raccourci pour Eliyahu HaNavi, d'accord, c'est les intimes, Eliyahu HaNavi, ils l'appellent Eli, et c'est Eli, mais c'est aussi un raccourci pour Eliezer, c'est le cas de Wiesel. Wiesel ne s'appelle pas Eliyahu, il s'appelle Eliezer, on l'appelle Eli Wiesel, mais on l'écrit avec un E même, mais en fait, il s'appelle Eliezer.
C'est pas Eliyahu Cohen.
Et ça, c'est Eliyahu Cohen, voilà. C'est le monsieur le Cohen qui réclame tout de suite, voilà. C'est juste, vous avez parfaitement raison. C'est Eliyahu Cohen. On va tout de suite dire deux, trois mots de ce Eliyahu Cohen. Vous êtes le descendant d'Eliyahu Cohen. Au sujet duquel il est dit, et on cite ici un pasouk de Shmuel Anavi, qui dit « V'chol marbit betcha yamutu anashim » au sujet de la descendance de Élie, il est dit que tous ceux qui sont descendants de ta maison, tous les marbit betcha, tous ceux qui sont dans ta maison, ils vont mourir jeunes. C'est écrit, ils vont mourir anashim, mais ça veut dire jeune. C'est une klala que le Kohen Gadol Eli a reçu. On va tout de suite l'expliquer. Amrolé, ils lui ont dit, le Midrash ne dit pas, mais ils lui ont dit oui. Et ils lui ont demandé, Rabbi, itzpalel aleinu. Rabbi, prie pour nous qu'on devienne vieux. Prie pour nous qu'on arrive à dépasser en quelque sorte cette klala. Et au lieu de prier pour eux, Amar Lahem, il leur a dit, le chou, ve taplou bitzdaka. Allez et occupez-vous de tzedaka. Pratiquez la tzedaka. Occupez-vous-en. Que ce soit votre occupation. T'appelles, ça veut dire s'en occuper. Vatem zochim lezikna. Et ainsi, vous aurez le mérite d'accéder à la vieillesse. Matame, quelle était sa raison de Rab Meir de penser comme ça? C'est basé sur le verset de Michelet, Ateret Tiferet Seva, que la Seva, la vieillesse, c'est une couronne, splendeur, Vechani Metsuya. Et où la trouve-t-on? Derer tzedaka timatse. On la trouvera sur le chemin de la tzedaka. Ok. Alors, Mimi ata lomed. Mimi ata la. D'où tu apprends ça? C'est quoi la question? La question, elle est sur Shlomo HaMelech. D'où est-ce que Shlomo HaMelech savait que si on était sur le chemin de la tzedaka, on accéderait à la vieillesse? Comme on dit, Mimi atal lamad, ça veut dire, a priori, ça s'adresse pas ni à Rabbi Meir, ça s'adresse a priori à Shlomo HaMelech. Mais Avraham, c'est pour ça que ça figure ici dans ce midrash, c'est qu'on déduit ça d'Avraham. Avraham, au sujet duquel il est écrit, vous vous souvenez quand Hachem a envoyé les anges pour détruire Sdom, alors la Torah, elle rapporte que Hachem s'est dit, mais est-ce que je dois pas vraiment avertir Abraham de ce que je vais faire avec Sdom. Pourtant, pourquoi est-ce que je devrais l'avertir? Parce que lui, Abraham, il veille à enseigner à sa maison, à ses enfants, à garder derech Hashem la sot tzedaka ou mishpat. Vezachal zikna, comme on voit, Abraham zaken baba yamin. Lui, il a enseigné justement à sa descendance, même disons à sa maisonnée, donc si vous voulez dans le présent, il a étendu pas seulement à sa famille, mais à toute la maisonnée, tous les gens qui étaient dans sa maison, au sens où on dit la maison de France, la maison de Bourbon, etc., la maison d'Abraham, d'accord ? Et aussi, pour les générations à venir, il leur a enseigné de garder l'ishmor, shamrou, garderont, derrière le chemin d'Hachem. C'est quoi le chemin d'Hachem ? La sot daka ou mishpat. Donc ça, c'est dit là-bas dans son contexte pour expliquer le statut à part d'Avraham Avinu. Avraham Avinu a un statut à part qui fait que Hachem se sent, si on peut parler comme ça, obligé de lui communiquer ce qu'il va faire. Et Avraham, lui, il va aussi en faire quelque chose. Quand Hachem va lui dire « je vais détruire Sodom », Avraham, il s'est pas dit « tiens, bon, j'ai une bonne information, c'est un scoop ». D'accord ? S'il me l'a dit, si Hachem me l'a dit, c'est pour que j'en fasse quelque chose. Et qu'est-ce que je peux en faire ? Eh bien, justement, prier pour que peut-être Sodom ne soit pas détruit. Et donc, Avraham va sortir toute la, ce que vous connaissez, toute sa capacité de essayer de convaincre Hachem de ne pas détruire Sodom complètement, parce que peut-être qu'il y a 50 tzadikim, et puis ensuite il a négocié. Et puis, comme on voit qu'Abraham est devenu vieux, alors, c'est pas marqué dans le texte que c'est pour ça qu'il a enseigné, qu'il est devenu, quand on dit de qui tu apprends, en fait, pour l'apprendre d'Abraham, il faut mettre bout à bout deux parties qui sont dites sur Abraham. D'une part, qu'il enseigne la tzedaka, et puis d'autre part, qu'il est vieux. D'accord ? On ne nous dit pas du tout que dans le texte, on ne voit pas que c'est obligatoirement lié l'un à l'autre. C'est déjà un limoud de les mettre bout à bout, de dire que c'est derrière Hachem. C'est derrière Hachem de faire ça, et que c'est parce qu'on est sur ce derrière-là que ça mène à la vieillesse. Donc c'est cette idée peut-être. D'où est-ce qu'on voit que c'est quelque chose qui mène à peut-être cette idée que si on avait seulement dit qu'Abraham avait enseigné le Shamrou la Asot Tzedaka ou Mishpat, on n'aurait peut-être pas pu le déduire. Mais c'est ce mot de dire que c'est le derrière d'Hachem, c'est le chemin d'Hachem. Un chemin, c'est a priori un endroit qui mène quelque part. Il y a des chemins qui ne mènent nulle part, mais ce chemin-là, il mène sûrement quelque part. Et effectivement, où est-ce que ça a amené Abraham de mettre... Alors, on ne parle pas de se mettre lui-même, n'est-ce pas ? Vous remarquez que ce n'est pas que Abraham lui-même a emprunté ce chemin. Ça n'aurait peut-être pas... Certainement, il l'a fait, mais ce n'est pas suffisant. Bon, ce qui est important, c'est qu'il l'enseigne. Il enseigne à ses enfants, il enseigne aux autres, et c'est le fait que sa descendance soit sur le chemin grâce à lui, ça justifie en quelque sorte, a posteriori, ça justifie la longévité d'Abraham. Pas seulement que lui-même s'est conduit de cette façon-là, mais il a le souci d'engager tous ceux qui sont un peu dépendants de lui, qui sont descendants de lui, à le faire. C'est ça. Donc, quelque part, ça veut dire que c'est pas simplement un comportement d'Abraham. C'est devenu à ce point essentiel que quasiment il rayonne cela, Abraham. Il le rayonne dans le présent et sur le futur. Alors, ensuite, il y a ce point-là, Zacha le Zikna. Il a mérité la Zikna. Il a mérité la vieillesse. Donc, visiblement, il y a un problème de mériter la vieillesse. Est-ce que tous les Est-ce que tous les vieux ont mérité leur vieillesse? Ensuite, vous remarquez que on passe, comme je vous l'ai dit dans ce paragraphe-là en tout cas, on passe tranquillement de Zikna à Seva. On apporte un passouk de Michelet qui parle de Seva, puis ensuite on dit Zachal Zikna, parce que effectivement, passouk de Bereshit, il dit Abraham Zaken, et pas ici on dit pas Seva. On va le dire quand il va mourir, on va dire ben Seva Tova, qu'il est. Il est mort aussi dans une vieillesse, une douce, une bonne vieillesse. Mais ensuite, on va voir effectivement la distinction qu'il faut faire entre Seva et Zikna. Mais ici, on n'a pas fait de distinction, visiblement. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a appris de ce... On a appris que c'est un chemin. Le tzedaka, c'est un chemin. C'est un chemin qui mène à la vieillesse, à une vieillesse dont on a acquis le mérite, en fait. Bon, c'est le commencement de cette analyse de la vieillesse d'Abraham. Et de façon générale, de la vieillesse, de la zikna. Deuxième paragraphe. Toujours un passouk dans Michelet, toujours, cette fois-ci c'est un passouk qui est plus connu parce que c'est un passouk dans Eshet Ra'il. Donc, et c'est le chapitre de la Medalef de Michelet. 31, qui parle de la Torah. Et Chetraïd, c'est la Torah. Et donc, on dit sur la Torah, Os ve'adar levusha, vatisraak le yom acharon. Bon, là, on parle de la Torah, et on dit, sur cette Torah, on dit que Os et Hadar sont son vêtement, c'est-à-dire, en fait, le Oz, c'est la force, la puissance, et Hadar, la splendeur, ou les honneurs, si vous voulez, sont son vêtement. Batisrak le Yom Acharon. Et elle se réjouit, elle est en joie, le Yom Acharon. C'est un peu compliqué de traduire, là. Le Yom Acharon. Ça, on peut dire au dernier jour, comme ça qu'on traduit effectivement au jour dernier, au dernier jour. Alors, le verset dit Vatisra qu'elle rira. Au dernier jour, on va dire comme ça pour l'instant. Et du coup, le Midrash demande « Ematai isocheket ?» On vient de dire que c'est le Yom Acharon. On vient de dire que c'est le dernier jour. C'est au dernier jour. Alors, quand est-ce qu'elle rit ? Matan srara l'artid lavo. Alors, le matan srara, c'est-à-dire la récompense, sera l'artid lavo dans le futur à venir, donc. Mimi ata lamed. D'où est-ce que de qui apprends-tu cela? de nouveau, mais Abraham. Apprends d'Abraham. À l'idée du fait que chez Katouf, bon, il est écrit à son sujet, toujours de nouveau le même verset. Il a veillé à ce que ses descendants, sa maisonnée, ses descendants, le chambrou derrière Hachem la sot zdaka, zaha le zikna. Ve Avraham zaken baba yamim. Et maintenant, plus tard, on va dire, Avraham, il est vieux et il est ba bayamim. Littéralement, il vient dans les jours ou avec ses jours. Orech yamim bimina, avec la, par la droite, on a orech yamim, la longévité. Bismola, par la gauche, on a Osher ve'Chavod. On a la richesse et les honneurs. Orech Yamim Bimina. La longévité dans la main, dans la droite. L'Atid Lavo, ça c'est pour l'Atid Lavo, dans le futur. Bismola Osher ve'Kavod, par la mazé. Et par la main gauche, la richesse et le Kavod, c'est dans ce monde-ci. Ça veut dire Afilouche et Uba, les Asmil, les Adam, Osher ve'Kavod. Même s'il vient donner une récompense aux hommes qui ne méritent pas vraiment. C'est pas parfait, donc c'est une récompense de la main gauche en quelque sorte. Alors c'est Osher ve'Kavod. C'est pas rien du tout, c'est Osher ve'Kavod. Mais mi ata lamad, mais Avraham, à l'idée chez Katouf bo ve'shamru derech Hashem la'asot tzedaka u'mishpot zacha le'zikna. C'est marqué v'Avraham zaken. Très compliqué ce. J'ai l'impression qu'on tourne un peu en rond, quoi, avec ce midrash. Si on regarde la fin de ce paragraphe, on ne comprend plus rien du tout. Quand on répond de qui tu l'apprends, c'est une question qu'on pose parce qu'on a dit quoi juste avant. On a dit juste avant, on a dit ce Orech Yamim Bimina, l'Atid Lavo, Bismola, Osher ve'Kavod, dans la Mazé. Et que même s'il vient récompenser de la main gauche, Osher ve'Kavod, et c'est quand même quelque chose. Et il donne le Osher et le Kavod. D'où tu apprends ça, d'Abraham? Qu'est-ce qu'on apprend d'Abraham? Ben, Abraham qui, ou Zaken. Qu'est-ce que ça a à voir avec Osher, avec Kavod et, etc. C'est quoi cette histoire? Bien. Alors, on va essayer de comprendre un peu quelque chose. Bien sûr. Alors, je reprends ce numéro 2, là. Ce premier passouk, là, de Chetraïl, donc de Michelet 31. Os ve'hadar, levusha. On parle du levouche. On parle d'un vêtement. Le vêtement de la Torah, c'est os et hadar. C'est justement la force, et le hadar, c'est une forme de gloire, de, ensuite on va traduire kavod. Donc, la force, la gloire de la Torah, ce n'est, quand on parle, ce n'est que son vêtement. Ce n'est pas du tout l'essentiel. Un vêtement, c'est fait pour couvrir. Mais c'est aussi quelque chose qui sert à exprimer. Avec son vêtement, on exprime quelque chose de plus intérieur. Bon, le vêtement, a priori, il va dire à tous ceux qui voient le vêtement, a priori, quelque chose de celui qui porte le vêtement. Mais ce n'est qu'un vêtement. L'essentiel, ce n'est pas ça. Donc, l'essentiel de la Torah, ce n'est pas ni son oz, ni son hadar. Ça n'est que l'extérieur, en fait. Alors, c'est quoi l'essentiel? Alors, l'essentiel, c'est ce dont on parle par rapport au Yom Ha'acharon, par rapport à la fin. La fin des temps, même peut-être au-delà. Alors, le Midrash demande, est-ce que le Pasuk dit Vatisrak, le Yom Acharon, et Matai Isocheket? Quand est-ce qu'elle est Socheket? Quand est-ce qu'elle se réjouit, en fait? C'est Matan Schara Aleatid Lavo. Le salaire, le vrai salaire, il est réservé pour l'Aleatid Lavo. Il ne sera donné que l'Aleatid Lavo. Donc, c'est ce qu'on dit ici, un peu par la suite. On dit, Bimina, par la main droite, la main la plus puissante, côté droit, Hachem donne pour le côté droit l'essentiel, c'est l'Aleatid Lavo. C'est quoi? C'est Orech Yamim, la longévité. Alors, c'est un peu compliqué. La longévité, c'est l'Aleatid Lavo. L'Aleatid Lavo, c'est un monde, c'est un autre monde, c'est un monde où effectivement, c'est un monde de l'éternité. Mais est-ce que, justement, ce Orech Yamim, littéralement, ça veut dire la longueur des jours, c'est cette longévité. Est-ce que ça veut dire quoi par rapport à l'Aleatid Lavo? On peut l'impression que il y a un lien entre, ou peut-être une égalité entre Orech Yamim et l'Aleatid Lavo. Alors, si on regarde le côté gauche, alors c'est effectivement le Osher et le Kavod, la richesse et le Kavod. Ça, c'est quelque chose, une récompense qu'on peut avoir dans ce monde-ci. Donc, on dit Olamazé opposé à l'Aleatid Lavo. D'habitude, on oppose Olamazé à Olamaba. L'Aleatid Lavo, c'est un futur seulement, un futur à venir. Mais est-ce que c'est déjà Olam Haba? Mais ça peut pas être dans Olam Hazé. Sur Olam Hazé, on en a déjà parlé. Donc, qu'est-ce qu'il y aurait? Il y a Olam Hazé, puis ensuite l'Aleatid Lavo, puis ensuite Olam Haba. Alors, c'est quoi l'Aleatid Lavo? Les temps messianiques? C'est pas très clair. Donc, même quand Hachem vient à Filou Sheouba, le Asmil, le Adam, même quand il vient donner à l'homme par la gauche, en quelque sorte, lui donne néanmoins au Cher et Kavot. Et c'est là-dessus qu'on nous dit, mais de qui tu apprends ça? Vois ça d'Abraham. Puisque c'est écrit à son sujet, Veshamru derech Hashem, la sot daka ou mishpat. Donc sa descendance va respecter, elle va être sur le chemin d'Hashem, c'est-à-dire pratiquer daka ou mishpat. Ça mène à la zikna. Alors, c'est quoi Zikna? C'est ça la Zikna qui est Orech Yamim? La longévité? C'est vrai qu'Abraham Avinu, c'est celui qui a vécu le plus longtemps des patriarches. Donc, il a une longévité. Est-ce que cette longévité qui a été donnée à Abraham Avinu, qui vient de ce que, si vous voulez, il est tellement... lui, il est tellement sur ce chemin où il est le chemin de la Tzedaka et Mishpat que c'est ce qu'il enseigne à tout autour de lui et qui se débrouille pour que ça continue dans toutes les générations après lui. Quelque part, ça veut dire que quand nous, on pratique Tzedaka et Mishpat, tout ça, ça vient justifier la longévité d'Abraham. A posteriori, ce que ça veut dire que la longévité, c'est l'atid lavo, c'est cette prolongation du après le olamazé, quelque chose qui est après. Mais peut-être que c'est après, on peut se demander est-ce qu'il est vraiment après dans le temps, ou est-ce que on nous parle ici de quelque chose qui peut s'appeler aussi olamaba, qui n'est pas après au sens de postérieur à, mais qui est quelque chose qui vient après qu'on ait vécu d'une certaine manière dans l'Olamazé, et que dans ce Olamazé, on soit allé sur un certain chemin, ça nous mène à cette notion de Zikna, ou de Seva, et c'est ça la longévité, et c'est ça l'Atid Lavo, en quelque sorte, ça veut dire quelque part, quand on est dans cette situation-là, on est dans l'Olamaba tout en étant dans l'Olamazé. C'est-à-dire, dans l'Olamazé, il y a une façon d'être dans ce monde-ci qui s'appelle l'Atid Lavo, le futur avenir, ou peut-être l'Olamaba. Ce qui ne veut pas dire que l'Olamaba ne continue pas bien au-delà. Mais peut-être qu'il y a déjà dans l'Amazé quelque chose qui s'appelle Zikna, qui s'appelle vieillesse, telle qu'elle est attribuée à Abraham Avinu, qui est quelque chose où celui qui a acquis cette Zikna, qui a acquis cette qualité en quelque sorte de vieillesse, cette façon d'être, en quelque sorte. Bon, alors on peut dire effectivement, voilà, il vit dans un autre monde, c'est un autre monde, c'est un monde de la longévité, un monde, parce que cette notion de longévité, est-ce qu'il faut vraiment traduire Orech Yamim par longévité, si vous voulez, au sens habituel du terme? Peut-être que ça sera ça peut-être quelque part la différence entre la Seva et la Zikna. Avraham Avinu, il aura les deux. Mais est-ce que peut-être ça veut dire qu'on vit, si vous voulez, l'éternité, si vous voulez, ça consiste pas à une plus longue durée, quoi. L'éternité, c'est pas comme la non-éternité, mais simplement ça dure plus longtemps. L'éternité, c'est une autre qualité du temps. C'est autre chose. On est dans un autre état. On ressent les choses différemment, on vit les choses différemment. Par conséquent, cette vieillesse, avec cette dimension de longévité, de Oreh Yamim, peut-être que c'est quelque chose qui va, par exemple, bien au-delà de la richesse, bien au-delà du kavod, qui sont deux grandes valeurs dans ce monde-ci, mais qui, il y a quelque chose qui va bien au-delà, dépasse complètement tout ça, parce que c'est autre chose, c'est une autre forme de vie dans laquelle la jouissance, si vous voulez, elle est d'un autre type, complètement d'un autre type. Bien au-delà de la notion de ce que peut donner la richesse, ce que peut donner le kavod. Ce sont des choses qui donnent beaucoup, mais c'est rien par rapport à cette ce qui est donné par la main droite, en fait. Bien sûr, il y a un commentaire du Matnat Kehuna sur ce midrash là. Lorsqu'on dit, on parle de Bihimina par la main droite. Alors, le matin que on a dit, Chazal ont été d'Oresh, la Maïminim, bah, ici, c'est ceux qui vont du côté droit, en fait. C'est-à-dire, chez Oskim, bah, Lishma. C'est-à-dire, ceux qui s'occupent de Torah, de la façon Yamin, de la façon complète, parfaite, c'est-à-dire l'Ishma, notenet lo sachar mi yoman, mi yuman, on leur donne un salaire qui vient du côté droit, vetov, et qui est la bonté, le olamaba, shik neged olamaze, ki yimin neged asmol. Maintenant qu'on a dit que olamaba, par rapport à Olam Hazeh, c'est un peu comme la main droite par rapport à la main gauche. Donc, vous voyez, c'est la main droite et la main gauche, côté droit et le côté gauche. Tous les deux, ce sont des mains. Les deux, des mains. Bon, il y en a une qui est droite et une qui est gauche. Même si on dit qu'un c'est Chesed et l'autre c'est plus la Gvura, mais elles sont toutes les deux nécessaires. Simplement, le côté droit a une prévalence, peut-être c'est un peu plus. Par contre, le côté gauche, c'est-à-dire ceux qui reçoivent un salaire, mais c'est un salaire qui n'est pas aussi grand, aussi généreux, parce qu'ils n'ont pas fait l'essentiel, c'était de s'occuper de Torah, l'Ishma, de s'occuper de la Torah pour elle-même. C'est-à-dire, chez Enlo Ikar, Notenlo, alors ça donne au cher Vekavod dans ce monde-ci. Veikar sera ro, mais le Ikar, il est réservé, Shamour le Olam Haba. Ça veut dire que si quelqu'un étudie la Torah parfaitement, c'est déjà dans ce monde-ci qu'il a ce que celui qui n'a pas étudié la Torah de façon parfaite n'aura que dans le monde à venir. Et celui qui a étudié la Torah de façon imparfaite, il aura une récompense dans ce monde qui est une récompense imparfaite, qui est quand même la richesse et le kavod, c'est-à-dire beaucoup de choses, dans ce monde-ci en tout cas. Et il n'a pas perdu il n'a pas perdu du tout ses droits sur la récompense dans Olam Haba. Simplement, c'est différé. Il l'aura seulement à un autre moment, plus tard, quelque sorte. Donc, on voit bien que celui qui a étudié la Torah et qui a la récompense dans ce monde-ci, en fait, il lui n'a pas besoin d'attendre. Ça veut dire qu'il est dans Olam Haba déjà dans ce monde-ci. C'est ça qu'on veut dire. Donc, quand quelqu'un étudie vraiment la Torah comme il doit l'étudier. Alors, il est déjà dans l'Olam Haba tout en étant dans ce monde-ci. Il est dans un autre monde. Et comment est-ce que ça se traduit en réalité? C'est quoi être dans cet autre monde? Bien, c'est être sur ce fameux chemin indiqué par Avraham Avinu. Un chemin qui s'appelle le Derech Hashem, qui est le chemin qu'Hashem veut que nous empruntions, et qui est un chemin où on pratique Tzedaka et Mishpat. Nous disent Tzedaka va Chesed. En tout cas, l'accent, il est mis sur la pratique de la Tzedaka. L'importance est la Tzedaka. Donc, ça veut dire qu'il y a une telle importance d'être sur le chemin d'Hachem, c'est de pratiquer la Tzedaka. Alors, on comprend bien que cette Tzedaka, elle doit englober tout ce qu'Hachem veut de nous, puisque ça s'appelle être, quand je pratique ça, je suis réputé être sur le chemin d'Hachem. Donc, quand on dit pratiquer la Tzedaka, évidemment, ça inclut pratiquer toutes les mitzvot. Ça implique étudier la Torah de façon lishma, de façon la Torah pour elle-même. Pas pour moi, mais pour elle-même. Lishma, ça ne veut pas dire ici qu'on étudie la Torah pour Hachem. Lishma, ça veut dire qu'on étudie la Torah pour elle-même, pour la connaître et pour la diffuser. Et alors, c'est curieux, où est-ce qu'on voit tout ça? Dans le fait qu'Avraham Zaken, Avraham est vieux. Il a mérité la vieillesse. Ça veut dire Avraham, il est sur ce chemin-là. Quand on est vraiment sur ce chemin-là et qu'on a fait en sorte que tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, dépendent de vous, bon, dépendent de nous, sont sur ce chemin également, alors on est quasiment dans l'Olam Haba. Alors on a cette longévité, parce que d'une certaine façon, si ceux qui dépendent d'Avraham sont sur le même chemin que lui, ben ils sont une prolongation de lui. D'une certaine manière, pour lui, c'est vivre éternellement. Bon, c'est toujours lui qui continue de vivre à travers ceux qui vivent selon ses directives, selon son modèle. Et on voit très bien cette fois-ci des psukim, on voit que ça, c'est quelque chose qui a comme conséquence qu'Hachem dit, il faut que je tienne Avraham au courant. Hachem, si on est sur ce chemin-là, quelque part, on est automatiquement. Hachem sent que, bon, il faut bien que je tienne au courant. C'est mon associé, je ne peux pas faire sans lui, je ne peux pas faire sans lui dire. C'est tout à fait étonnant. Je me dis, je ne peux pas ne pas lui dire, je vais détruire Sdom. Et d'un autre côté, Avraham, il comprend très bien, si Hachem me le dit, ce n'est pas simplement pour m'en informer. C'est pour que j'en fasse quelque chose. Ça veut dire, c'est comme si Hachem invitait Avraham à un espèce de duo. Moi, je te dis que je vais détruire Sdom, et toi, tu me dis qu'on ne peut pas faire une chose pareille, tu peux pas, c'est l'injustice complète, tu vas tuer les justes en même temps que les rachaïms, c'est pas possible, c'est insupportable. Et alors à ce moment-là, il faut que Avraham puisse dérouler tous ses arguments Et finalement, bon, il se rallie à ce qu'Hachem lui a dit, voilà, on va détruire Sodom, avec l'accord d'Abraham, parce que même avec un aussi bon avocat de la défense, il n'a pas été possible de sauver Sodom. Et la Zikna, c'est cet état-là, cet état où on devient l'associé d'Hachem. Parce que sinon, on ne comprend rien du tout à ce Midrash. Est-ce qu'il a à voir avec Abraham et Zaken, en quoi ça correspond à ce qu'on essaie de démontrer? D'un autre côté, il y a aussi une chose très intéressante, c'est que quand on étudie la Torah et que ce n'est pas l'Ishma, alors ce n'est pas que ça ne vaut rien. Pas du tout. C'est simplement qu'on n'a pas compris suffisamment bien et donc le salaire, donc quand est-ce qu'on va vraiment bien comprendre, c'est seulement dans le futur. C'est à l'avenir on comprendra. Ça, le salaire, évidemment. On va comprendre, effectivement. Et en attendant, parce que finalement, tu lis la Torah quand même, alors tu auras quand même Osher Bechavod. C'est-à-dire, tu n'auras de la Torah que son vêtement. C'est-à-dire, c'est comme si, au fond, c'est le vêtement, ce qui est le vêtement, c'est comme des espèces de retombées positives, mais qui ne sont pas du tout l'essentiel. L'essentiel, il est remis à Olam Haba. Alors, eux, ils ont traduit, encore une petite remarque, quand même. Ils ont traduit ici dans le verdier, là. Ils ont traduit Mesacheket par rire. Elle rit. Mais en fait, vous savez bien de la Torah que le rire, c'est l'itzrok. C'est avec un tzadik et pas avec un si. Le sachek. Avec un signe, c'est jouer, c'est le jeu. J'y ai eu. Donc, alors, c'est vrai que c'est très proche. Dans la Torah, on voit que les choses sont très. On le voit aussi dans l'écriture, dans la graphie de ces deux noms, ces deux substantifs, effectivement. Ou même enfin, ou les verbes, peu importe. Et on voit très bien que c'est très proche. Eux, ils ont traduit par rire. Ici, une traduction en anglais où eux, ils ont plutôt traduit en disant qu'elle amène la joie. Elle aura la joie. C'est sûr que c'est un jeu qui met en joie. On dit d'Hachem qu'il joue avec le Léviathan. Mais Sachek avec le Léviathan. Il se réjouit, il joue, et c'est un jeu qui réjouit. Je ne sais pas s'il y a un autre mot, peut-être plus adéquat, je ne sais pas. En tout cas, le problème du rire, il faut l'entendre comme ça, ce n'est pas un rire. C'est pas vraiment un rire, c'est quelque chose qui met en joie.
Alors, Rav, j'avais une question.
J'écoute.
On a vu récemment, notamment dans le Daf Yomi, la notion de Limud Torah Lishma, et je crois que Rashi sur place, il définissait, c'est parce, comme Hachem me l'a demandé, je le fais pour par ce fait-là, par le fait que Hachem me demande. Est-ce que ça. Et donc, je le fais pas pour à des fins intéressées, pour devenir rave ou pour
Oui,
être.
ça c'est sûr. Ça c'est le Shelo Lishma. Shelo Lishma, c'est pour en tirer un bénéfice. Il y a un Shelo Lishma qui est complètement stérile, qui est le canter. C'est pour attaquer en fait. C'est les renégats qui étudient la Torah pour pouvoir attaquer, etc. Ça c'est complètement stérile. Là-dessus, sur ce Shelo Lishma-là, on dit pas Mitor Shelo Lishma Bal Lishma. On dit mitor shelo lishma ba lishma, on le dit quand on étudie de façon intéressée, fait pour devenir rabbin, pour impressionner quelqu'un, pour faire plaisir, etc. Tout ça, c'est shelo lishma. Lishma, c'est effectivement, comme toutes les mitzvot, on doit les faire parce qu'Hachem nous les a ordonnées, mais Hachem m'a ordonné d'étudier la Torah pour elle-même. Je le fais parce qu'Hachem m'a ordonné d'étudier la Torah. Mais pourquoi étudier la Torah? Je l'étudie pour elle-même, c'est-à-dire pour la développer, pour l'enseigner, pour la faire, ouais, pour faire veiller à ce qu'elle soit répandue dans le monde.
D'accord, merci.
Alors, j'avais dit que j'allais dire deux mots, j'ai oublié de le dire, sur Élie, pour que ça soit à peu près complet. Élie a vécu au moment où, si vous voulez, on va dire comme ça, on va dire un peu à l'envers. Un des plus grands prophètes, c'est Shmuel. Shmuel est né chez son papa c'était Elkana et sa maman c'était Hana. Et Hana était pendant très longtemps, elle était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Et Elkana avait une deuxième épouse qui s'appelait Pnina et elle avait un enfant quasiment toutes les années. Et chaque fois qu'il montait au Mishkan, puisque c'était pas encore mais chaque fois qu'il montait pour voir et être vu dans la mitzvah de Régel. Alors, il passait là-bas du temps et alors à Tunina, Elkana donnait des portions pour tout elle et ses enfants et bien pour Hanaï avec sa portion à elle. Pnina l'a sticoté en permanence. Probablement que Pnina, enfin très certainement même, Pnina le faisait pour. Elle pensait que il fallait pousser Hana dans ses derniers retranchements pour qu'elle prie plus intensément. Bon, puisque dans la Torah, la stérilité, c'est en général une raison de prier, c'est-à-dire comme on dit qu'Hachem aime la prière des femmes, et souvent elles sont stériles momentanément parce qu'Hachem aime leurs prières. Ils veulent les entendre prier. En tout cas, Hana, etc., rien ne marchait. Et au bout d'un moment, Hana est allée là-bas au Mishkan, enfin où était justement Eli HaKohen, et elle a prié, et Hana a inventé une façon de prier. Elle a inventé la façon dont nous prions aujourd'hui. Avant, probablement, on priait différemment, on criait le nom d'Hachem éventuellement, mais cette prière en supplication, etc., C'est une invention de Hana. Et Élie, qui ne connaissait pas ça, il a cru que Hana était une souillon. Alors il l'a houspillé, il a dit, on n'a pas besoin de souillon ici, là, c'est pas l'endroit. Alors elle lui a expliqué, elle lui a dit, c'est pas du tout ça, c'est pas ce que tu crois. Je déverse mon âme, en quelque sorte. Et c'est de ce moment de prière, effectivement, qu'est né finalement Shmuel. Ensuite, elle a eu d'autres enfants. Ça s'est très mal passé pour Pnina. Mais c'est pas mon sujet maintenant. Mais en tout cas, c'est-à-dire que Hana, elle a accouché de Shmuel, qui est un des, comme je vous ai dit, un des plus grands prophètes. Mais en même temps, elle a accouché du mode de prière qui est encore aujourd'hui le nôtre. Donc, vous imaginez la grandeur de cette femme, quoi. On prie encore tous sur le modèle de Hana. Et Élie avait des enfants, garçons, qui, en fait, conduisaient assez mal. Bon, ils étaient bien placés et tout. Et donc, ils avaient tendance à se mêler de l'intimité des femmes qui apportaient des corbanotes après la naissance, etc. Et bon, c'était une mauvaise chose. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que c'est la maison d'Élie qui a été, on aurait dû dire, c'est la maison des fils d'Élie, mais pas la maison d'Élie. Mais justement, le problème d'Élie, c'est qu'il y avait aussi un problème chez lui. C'est que Élie, quand il a vu Hana, il ne savait pas exactement ce que c'était. Et donc, il a interrogé Hachem. Et comment est-ce que le Kohen Gadol a interrogé Hachem? Il interrogeait, vous savez, il y a un système qui s'appelle Urim Vetumim. Il y avait une façon d'interroger Hachem. Il répondait avec des lumières qui correspondent à certaines lettres et qui s'allumaient. Et il a interrogé pour... Et il a, le problème, c'est que la réponse, c'était des lettres. Mais ensuite, il fallait faire un mot avec ces lettres. Il a eu les lettres et il a fait avec ces lettres le mot Shikura, qu'elle était saoule. Mais en fait, avec ces mêmes lettres, on pouvait faire le mot Kshera, elle était cachère. Et donc, la faute de Élie, si on peut parler comme ça, c'est finalement d'avoir interprété d'après ce qu'il avait déjà vu, comme si il a simplement pris le message d'Hachem comme étant une confirmation de ce que lui savait déjà. Et il ne s'est pas demandé vraiment, voilà, il n'y a pas tellement de lettres, 4 lettres, il y a quelques combinaisons possibles. Il aurait pu envisager la bonne combinaison. Mais il ne l'a pas fait. C'est une faute de sa part. C'est une grave faute. Ça veut dire qu'il n'était pas capable de donner sa place à chacun, à chacune. Il n'était pas un Kohen Gadol, il doit donner sa place à chacun. D'ailleurs, ses enfants, c'est aussi, ils ne sont pas capables de laisser chacun avec sa vie sans se mêler de la vie des autres. C'est un dévoiement. Et donc, c'est pour ça que ils ont eu cette clala dont on parle ici, qui fait que ils n'allaient pas vivre, pas devenir des vieillards, en fait. Donc, c'est le contraire de Abraham Zaken. Donc, il leur a dit, ici, vous êtes, il n'y a pas de Zkenim chez vous. Donc, il n'y a pas d'anciens. Il y a comme si, quelque part, c'est une forme de stérilité. C'est pas capable de produire des Zkenim, pas capable de produire des gens qui, disons, même en disant en termes d'études de la Torah, une étude de la Torah qui soit vraiment l'Ishma. C'est ça l'anti. C'est pour ça qu'on raconte cette histoire-là. C'est l'anti-Zaken, au contraire du Zaken. Ensuite, au numéro 3, dans ma version, c'est marqué Rabbi Tzrak Patar. Vegam ad zikna veseva elokim altazveni. Amar Rabbi Acha. Donc eux, ils ont traduit comme si c'était déjà Rabbi Acha qui citait le verset des psaumes. Il y a un verset de Teilim qui dit, ils ont traduit par ne m'abandonne pas Hachem, même jusque dans ma vieillesse et mon grand âge. Là vous voyez apparaître le doublon là, Zikna Seva. Vegam ad Zikna Veseva Elokim Alta Azveni. Même jusqu'à la Zikna et la Seva, Elokim ne m'abandonne pas. Amar Rabbi Acha, là-dessus, sur ce verset-là, lui s'est étonné, Rabbi Acha. Il a dit, mais hi zikna, velo hi zikna, velo hi seva. Est-ce que c'est pas la même chose? Évidemment que c'est pas possible que ce soit la même chose. David, il n'a pas écrit dans les Tehilim de synonymes. Ici. Alors il a répondu, non, effectivement, c'est pas la même chose. Et la Shem natatali zikna tenli seva ima. Si tu m'as donné la zikna, donne-moi aussi avec elle la seva. Bon, il n'a pas du tout expliqué, il a simplement dit ici que il y a ces deux choses et que semble-t-il, la seva, ça vient en plus de la zikna. On peut n'avoir que la zikna sans la seva. Mimi atalomed, de qui tu apprends ça? Mais Avraham, parce que c'est marqué justement toujours le même verset, Beshamruder Hashem Asot Zdaka Umishpat, Zacha le zikna ve Avraham Zaken. Et où est passée la Seva? Qu'est-ce qu'il nous a dit là? Ah, du coup, on ne comprend vraiment rien. Je pense que vous êtes d'accord. Vous avez avantage, parce que sinon, il faut que vous m'expliquiez. Alors là, maintenant que Ouna, il ramène Rashi. Rashi dit que la Seva, c'est Adrat Panim. Dans la Torah, c'est marqué devant la Seva, tu dois honorer la Seva. Ça veut dire que la Seva, c'est un visage rayonnant, en quelque sorte. C'est une vieillesse, mais en même temps avoir un visage qui où rayonne en quelque sorte la bonté, l'intelligence, etc. Et c'est pas quelqu'un qui est vieux, mais qui est complètement fermé, complètement désagréable, s'il vous plaît. Donne-moi la Seva aussi. C'est curieux, le Midrash ici, il n'amène aucun verset qui concerne la Seva. Il pose la question, ce Rav Acha, il pose la question et il donne pas de réponse. Il dit, est-ce que c'est la même chose? Non, c'est sûrement pas la même chose. Donne-moi en plus, mais c'est un en plus. Pour lui, c'est simplement la Seva, c'est un en plus de la Zikna. Et Rachid dit, qu'est-ce que c'est que cet en plus? Ben, c'est un drap de panim. C'est un visage rayonnant, en quelque sorte. Visage qui qui marque, qui montre la sagesse, etc. Donc pour l'instant, de notre Midrash, ici, pour l'instant, on a une question, mais visiblement, ça donne pas vraiment de réponse. On a simplement l'impression que c'est un an plus. C'est tout ce qu'on va garder de ce paragraphe-là, c'est un an plus. En vérité, ce qu'on ne comprend pas très bien, c'est pourquoi le Midrash n'a pas apporté l'autre verset. Le verset qui dit « Avraham Zaken », c'est marqué sur la mort, au moment de la mort d'Avraham, c'est marqué « Vayamot Avraham beseva tova ». Avraham est mort avec une très bonne seva. C'est ça qu'on aurait dû dire, que au-delà de la, il a été Zaken, et quand il meurt, il a eu une seva tova, bonne vieillesse. Une bonne, c'est ça. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne vieillesse? C'est une vieillesse qui correspond vraiment. C'est-à-dire que on n'est pas vieux prématurément, on n'est pas, handicapé, on n'est pas rien. C'est tout. Ça permet de profiter et d'enseigner jusqu'à la fin. Alors, je vais juste lire avec vous le prochain paragraphe, auquel vous pourrez méditer pendant la semaine. Rav Shmuel bar Rav Yitzhak patar. Donc, et on recommence avec un verset de Michelet, toujours. Un verset qui est bien connu. Rodef Zaka Vachesed. Il s'agit d'un pasouk qui est toujours parle de celui qui est rodef, c'est-à-dire qui poursuit la tzedaka et le chesed. Alors la fin du pasouk de Michelet, c'est de dire qu'il va trouver la vie, la tzedaka et la gloire. Donc on a quelqu'un qui poursuit la tzedaka, qui va trouver lui-même la tzedaka, mais en plus, il aura la vie en plus essentiellement. Alors, regardez, c'est une histoire qui nous est racontée là. Car le cadre de Mach Rabbi Shmuel bar Rav Yitzhak. Lorsque Rabbi Shmuel bar Rav Yitzhak s'est affaibli, donc il était en train de mourir, et ce Rabbi Shmuel bar Yitzhak, on nous dit quelque chose de sa vie, d'Avem Raked Atlat Shivshin, c'est quelqu'un qui dansait devant le Khatan et la Kala avec trois tiges de myrrhe, trois branches de myrrhe. Nafkin Ruchin, alors il était à l'article de la mort, alors il y a eu un déchaînement des éléments. Nafkin Ruchin, Valulin, Vikron Kolilanat, Vaya de Arad d'Israël. Il y a eu un déchaînement de tous les vents, la tempête, etc., qui ont arraché tous les arbres puissants d'Eretz Israël. Et pourquoi? Pourquoi? Lama, Lamaken, t'avais la kit minhon shivshin ou mealer kadam kala. Parce qu'il avait l'habitude de couper les branches et il marchait, il dansait devant la kala avec ça. Donc, c'est comme si on disait, à partir du moment où lui n'est plus là et donc les branches des arbres ne servent plus à réjouir la kala, on n'a plus besoin des arbres. Bon, les arbres, ils vont s'envoler parce qu'on n'a plus besoin d'eux. Si c'est pas pour réjouir la kala. Vavou Rabbanan Amrin, et les Rabbanan étaient très critiques à son égard, et ils disaient, le Ma'avid Kidin, pourquoi il fait comme ça? La Ma'ou Mevazé Yatoraita, pourquoi est-ce qu'il méprise la Torah? Amar Abzera, alors Abzera leur a dit, Shafkouté, laissez-le tranquille. D'où Yada Ma'ou Avid. Il sait ce qu'il fait. Abzera, il avait compris. Comment, mais en tout cas, lui, il a dit, il sait ce qu'il fait, laissez-le tranquille. Kad de Mach. Alors, lorsque il est mort, Nefaku le Migmal le Chesed, Venarta Shivshiva de Nour. Alors, les gens se sont rassemblés, ils ont voulu lui faire son respect, lui donner du kavod. Et il y a eu une langue de feu qui est descendue. Ve'it avidat kemo shiv sheva de hadas. Cette langue de feu, elle a pris la forme d'une branche de hadas, vafsikat ben arsa le tzibura. Et elle est venue se placer entre les gens, entre le cercueil, le lit de mort, quoi, et le tzibur. Et Amrin, les gens ont dit, ils ont compris, ils ont dit, Khamun de Adin Saba, nous voyons en fait que, ben regardez quoi, ce vieil homme de Kae Velae de Kamatle Shivshita. Shivshita, pardon. Il se levait pour danser, eh bien sa branche de myrte, donc elle se lève pour lui. En feu, quoi. Donc voilà ce que le Midrash a à nous dire. Sur quoi? Sur ce verset, Rodef Tzedaka Bachesed. Celui qui poursuit la tzedaka et le chesed, alors il mérite en retour d'avoir lui aussi la vie, la tzedaka et la gloire. Alors est-ce qu'il a eu, bon, c'est pas de son vivant, au contraire, il n'a pas, bon, il est devenu un vieillard, ça veut dire quand même, donc il a eu une longue vie. Ensuite, ce qu'il faisait pour les autres, ça s'est fait pour lui, si on peut parler comme ça. Il a un grand kavod, tout le monde l'a reconnu. Davar acher, autre chose sur ce verset-là, Odev Zaka, c'est Abraham. Celui qui poursuit la Zaka, c'est Abraham. Toujours le même verset. Le Shamrou Derech Hashem. Etc., comme on a vu plus haut. Voilà. On va s'arrêter là. Pouvez réfléchir sur ce que vous inspire ce paragraphe-là. Il est très beau.